De l'information à l'indigestion. Les gros boss de fin de niveau qui attaquent votre attention sont au nombre de 3. Pour vous parler du premier, nous devons faire un voyage dans le temps. Ça en jette comme annonce, non? En 1631, paraît le premier journal imprimé en France. Il s'appelle La Gazette et sert plus à délivrer des communiqués officiels qu'à informer ses lecteurs. Rapidement, l'État met la main dessus et il servira d'outil de communication aux différents gouvernements jusqu'à la Première Guerre mondiale. Passé le conflit, la Gazette disparaît dans l'indifférence la plus totale. Durant ces presque 3 siècles, de nombreux concurrents voient le jour. Le journal papier est le premier média d'information que connaît la société. La plupart d'entre eux vont miser sur l'économie de l'abonnement afin d'assurer une clientèle et d'optimiser les coûts en imprimant la juste quantité nécessaire pour couvrir le nombre d'abonnés. Ce système a ses limites. Difficile de trouver de nouveaux abonnés alors qu'on pourrait vendre les titres restants à toutes les personnes potentiellement aptes à se délester de quelques pièces pour connaître les nouvelles du pays et du monde. Avez-vous en tête l'image du jeune garçon, dans les rues du New York de 1912, un paquet de journaux sous un bras et agitant un exemplaire de l'autre bras? Il crie « Dernière nouvelle! On a retrouvé le Titanic! Achetez le journal !» Il y a toujours un passant pour lui donner une pièce et s'offrir un exemplaire. Ce passant poursuit sa marche en ouvrant le journal. Il ne trouve pas l'information promise sur le Titanic, mais se laisse happer par les autres gros titres qui, s'ils sont moins efficaces que celui que criait le garçon, attisent quand même sa curiosité. Cette vente à la criée est, selon moi, l'un des points de départ expliquant ce qu'est devenu le commerce de l'information aujourd'hui, un commerce d'attention. En 2024, l'information est partout, et nous n'avons même plus à payer pour y accéder. Les informations gratuites ont commencé à prendre leur place à la télévision. Le journal télévisé reste l'un des formats les plus suivis avec le plus de régularité. Puis l'actualité est devenue un contenu sur Internet. D'abord sur des sites spécialisés, puis sur les réseaux sociaux. Entre-temps sont apparus les journaux gratuits, comme ceux que vous pouvez trouver aux abords des transports en commun. Quel est le business de ces entreprises? Elles ne vendent pas de l'information puisque l'accès est gratuit. Elles vendent des espaces publicitaires. Voilà le business qui se cache, à peine, derrière ce métier. Et comment vendre un espace de publicité aux marques? En leur prouvant que l'on a une audience et surtout que l'on possède l'attention de cette audience. Vendre de l'information gratuite, c'est plutôt vendre l'attention d'un utilisateur à une marque. La citation anonyme qui dit « Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit » brille de vérité. Le titre qui fait cliquer. Putaclic. C'est l'expression que l'on utilise pour parler d'un titre sur Internet qui n'est pas conforme au contenu d'une vidéo ou qui exagère le contenu que l'on va y trouver. La consonance avec un mot français vulgaire est fortuite. Ce néologisme vient de l'anglais « put a click », soit « mettre un clic » dans la langue de Molière. Pour les médias gratuits présents sur le web, la première statistique à présenter aux marques est le trafic de leur site Internet. Tous les coups sont permis pour vous faire cliquer. L'une des techniques vise à capter votre attention en utilisant un titre volontairement négatif. Le biais de négativité va vous donner envie d'en savoir plus. Nous sommes ainsi faits. Là où les tabloïds n'hésitent pas à pousser le vice en mettant des titres mensongers, qui leur valent des procès et des amendes déjà prévues dans leur comptabilité, les médias plus sérieux vont utiliser des pirouettes pour retomber sur leurs pieds. Démonstration et sans échauffement. Gros titre. Fabien Olicard est-il un escroc? Cette question orientée me donne envie de cliquer pour savoir si je suis un escroc, alors que c'est moi qui viens de rédiger le titre. Mais que se passe-t-il si je clique sur cet article virtuel? Je vais d'abord avoir un texte me rappelant le contexte. Qui est ce Fabien Olicard? Et si possible, citant des personnes connues ou n'importe quel mot-clé ayant un intérêt pour le référencement de l'article sur les moteurs de recherche. Quelque chose comme... Fabien Olicard est un mentaliste, comme dans la série The Mentalist sur TF1 dont la voix française est interprétée par l'un des comédiens de la série Plus belle la vie. C'est sur la scène de l'Olympia, qui verra bientôt Christophe Maé en concert, que ce jeune passionné du cerveau se révèle. Plus loin dans le texte, nous aurons enfin la réponse au titre de cet article. Fabien Olicard s'amuse à dire sur scène que le mentalisme est à la frontière de l'illusionnisme et de la voyance, une sorte d'escroquerie honnête. Son spectacle, lui, n'a rien de l'escroquerie parce que... S'ensuivra tout le blabla inutile servant à justifier qu'une personne ait rédigé 800 mots pour faire une sorte d'article d'information. Vous pensez que ça s'arrête là? Cette technique a une conséquence encore plus perverse. La majorité des lecteurs ne vont pas cliquer. Et leurs pensées, stimulées par l'émotion, vont mémoriser le contenu du titre au même titre que n'importe quelle donnée, sans tenir compte de son caractère interrogatif. Souvenez-vous, combien font 2 plus 2? 4, bien sûr. Pourtant, une partie de votre cerveau se souvient d'un court instant où ça faisait 10. Malin. Quand un utilisateur partage un lien sur les réseaux sociaux, seul le titre apparaît et il faut consentir à cliquer pour lire la suite du texte. En 2016, le site The Science Post a posté sur Facebook le lien d'un article dont le titre était « Étude. 70% des utilisateurs de Facebook lisent seulement le titre des papiers scientifiques avant de les commenter. » 46 000 personnes ont partagé le post d'origine sur leur propre page Facebook, parfois sans commentaire, parfois pour faire la morale à leurs amis. Sauf que l'article en question était pire que faux. Il n'existait pas. Si vous cliquiez dessus, vous tombiez sur une page comportant un texte latin dont l'on se sert dans le graphisme et l'édition pour mettre en forme la mise en page en attendant le véritable texte. Ce texte latin d'attente est communément appelé le Lorem Ipsum. Il n'y avait pas d'article. 46 000 personnes se sont empressées de partager un titre fort sans lire l'article, comme le dénonçait précisément le titre du faux article. À ce niveau, la mise en abîme est presque une œuvre d'art. Une étude, scientifique cette fois, publiée en 2015, réalisée main dans la main par l'Institut français et l'Université de Columbia, démontre que plus un article est viral, moins il est lu. 59% des liens partagés sur X n'avaient pas été consultés par la personne à l'origine du partage. Nous pourrions expliquer ce phénomène par des facteurs tels que le manque de vigilance ou le biais de confirmation, biais qui active notre attention sur ce qui confirme ce que l'on pense déjà. Mais le plus étonnant, c'est que cette évolution du système de communication de l'information ne sert même pas les enjeux financiers de ces organes d'information, puisque plus un article est viral, et moins il est lu. Donc moins de trafic et moins de revenus publicitaires pour le fournisseur d'informations. L'information n'est jamais gratuite. Les médias gratuits travaillent donc plus sur le titre d'un article et l'image qui va apparaître que sur le contenu en lui-même. Je connais bien le souci pour être soumis à cette même règle lorsque je poste mes contenus sur Internet. L'information gratuite a tout fait pour manipuler notre attention jusqu'à la rendre flemmarde, heureuse de ne pas faire d'efforts et perdant l'habitude de creuser une donnée. La loi dictée par votre cerveau est « stimule-moi, offusque-moi ou passe ta route ». Rajoutons à cela la course à la publication. Plus un média gratuit poste tôt une information, plus il a de chances que ce soit son contenu qui devienne populaire. Cette précipitation engendre régulièrement des erreurs plus ou moins graves, des erreurs de chiffres, des fautes dans les noms, des accusations infondées et parfois des avis de décès erronés. Les concurrents écrivent leurs articles en se basant sur le premier qui a publié l'info. Personne ne veut perdre sa place dans la course. L'information erronée se propage, mais, heureusement, elle va être rectifiée. Les correctifs sont en général rajoutés à la fin des articles. Vous savez, le fameux article sur lequel personne ne clique et que peu de gens lisent en entier. Le modèle économique de Google et de Facebook est basé à 97% sur les revenus publicitaires. Difficile de savoir pour les autres géants du secteur, avec les changements récents, mais je doute que l'option payante de X ou que celle encore plus récente de Meta, pour se conformer aux lois européennes, ait révolutionné les modèles de ces plateformes. Au cours des 2 dernières décennies, près de 80% des vendeurs de journaux ont disparu. À quoi bon acheter de l'information quand on peut la trouver librement? Dans le même temps, quand Internet prenait son envol, les chaînes d'actualité en continu se sont multipliées. Difficile dans ce cadre-là d'utiliser la stratégie du titre aguicheur, mais on peut quand même opter pour la stratégie de l'information spectacle. Si Fox News a fait ses preuves aux États-Unis, en France, de nombreuses chaînes ne sont pas en reste. Captiver l'audience signifie créer la surprise, engendrer des réactions, jouer sur la négativité, offrir des moments de joie partagés. Si vous voulez lancer un média comme celui-ci, vous aurez intérêt à créer des débats très contradictoires, avoir des témoignages poignants, à survoler l'information pour ne pas ennuyer l'audience, à cliver, à mettre en avant des opinions fortes et assumées. Il faudra peut-être veiller, également, à ne pas froisser les annonceurs pour s'assurer de leur fidélité. Récemment, le média Le Crayon s'est illustré dans la création de contenus sans contexte, opposant volontairement des personnes aux opinions diamétralement opposées, sous la forme de vidéos courtes. Pas de contexte, pas d'avant, pas d'après. Des punchlines qui confirment notre opinion ou qui la choquent. L'équilibre des curseurs. Le lien entre l'attention et l'information m'intéresse au plus haut point pour mon métier. En public, j'exerce dans deux conditions. Les spectacles, depuis 15 ans, où les spectateurs achètent une place pour venir me voir. Les conférences, depuis 20 ans, où l'on impose ma présence à une audience, en général les employés d'une société. Ce que j'ai aimé, en commençant à faire mes spectacles dans les théâtres, c'est le pouvoir d'intéresser un public, venu avant tout pour s'amuser, à des domaines de science qui les rebutent habituellement. J'avais construit mes spectacles sur un principe basique. Les mammifères apprennent en jouant. L'être humain fait de même et s'instruit mieux par l'expérience et une dimension ludique. Mes spectacles ont donc un passager clandestin, une cargaison de savoir que je tente de distiller et de transmettre pendant la représentation. Je pense qu'il y a 80% de show et 20% de savoir dans les 2 heures au cours desquelles je déroule mon spectacle. Mes conférences sont plus calmes. Elles visent à transmettre un savoir, une expérience, et à faire en sorte que le public reparte avec des connaissances utiles pour la vie quotidienne ou pour le travail. Pour autant, je m'attache depuis 2 décennies à mettre du rythme et à instiller des moments divertissants avec l'audience, toujours sur le principe de l'apprentissage ludique. Mes conférences durent 1 heure. Je connais les enjeux de l'attention et de la concentration. Il y a 20 ans, mes conférences étaient équilibrées à 80% d'information pour 20% de show, de divertissement. Aujourd'hui, je suis à 60-40 et parfois je pousse jusqu'à l'équilibre pour m'assurer l'attention de l'audience. C'est un constat personnel qui m'inquiète sérieusement. Comment continuer à faire circuler le savoir, l'information et la connaissance si en face nous n'avons plus les capacités pour les recevoir? Ce chapitre est à l'image de cette partie, un état des lieux de notre société face à l'attention. Je vous proposerai des solutions dans les autres parties du livre audio, mais pour ce qui est de votre consommation de l'information, au sens des actualités, je vous recommande de vous abonner à un magazine, physique ou virtuel, payant, apolitique, sourcé. Et surtout, je vous invite à résister à l'envie de faire circuler l'information gratuite d'une manière générale. Tim Ferriss disait que pour gagner du temps, il ne lisait plus les informations. Il demandait simplement à son entourage ce qu'il y avait à savoir sur le monde en ce moment. Il obtenait ainsi les grandes lignes de l'actualité sans revoir les mêmes informations en boucle dans tous les médias gratuits. Malin.